19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Et tous les soirs avec Philippe David, vous pouvez parler, nous appeler au 0826-300-300. Cette émission est faite pour vous et par vous, avec des sujets très intéressants ce soir. On va revenir sur la réforme de l'orthographe, suppression du participe passé des classes de plusieurs niveaux, Philippe.
Absolument. Est-ce que vous avez vos enfants dans une classe où, par exemple, il y a des CM1, des CM2, ou des CP-CE1, ou des CE1, CE2? Est-ce que c'est un avantage ou pas? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça joue pour la baisse du niveau scolaire ou pas, hein, évidemment, venez témoigner au 0826-300-300.
Et puis un scandale, l'opération abusive de caractère à un hôpital en France.
Absolument, c'est le canard enchaîné qui sort a priori des faits très graves, notamment sur des abus d'opération de la cataracte. Dans quelques secondes, on va avoir avec nous l'ancien président du syndicat national des ophtalmologistes de France.
3500 opérations par an pour une ville qui en fait 13 000.
C'est quand même beaucoup.
C'est quand même beaucoup, oui. Effectivement. Et puis, si vous avez envie de parler de politique, est-ce que cette rentrée est un peu cacophonique autour des candidats? Est-ce que vous y comprenez quelque chose? 0826-300-300.
Et évidemment, je participe à sudradio.fr ou au 720. Maxime, la suite
7-20-18, et vous envoyez VV en mot-clé. VV mot-clé avant le début du message, sinon on ne le reçoit pas, attention.
Ah, évidemment.
Et donc on est ensemble jusqu'à 20h.
Absolument. Nous sommes en compagnie et avec nous également, bien évidemment, Mathéo Lamblot. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
Nous avons le bonheur de recevoir le docteur Thierry Bourg, ancien président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, les ophtalmologistes, là, vous faites, enfin certains font la une, enfin font un gros article dans le Canard enchaîné pour des abus sur des opérations de la cataracte. Alors c'est fou parce que 3500 opérations par an dans une ville de 13 000 âmes, ça fait quand même beaucoup. Et surtout avec un âge moyen des personnes opérées de 56 ans alors que la moyenne nationale est à 73. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous paraît cohérent d'opérer avec une moyenne d'âge de 56 ans pour la cataracte, sachant évidemment que vous êtes ophtalmologiste?
Écoutez, il y a deux choses incohérentes. D'une part, on opère en France actuellement environ 1500 cataractes pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, pour 3500 cataractes, ça devrait correspondre à un bassin de population de 250 000 habitants.
Ah oui.
Ce qui n'est pas le cas de Châteaudun. Je crois qu'il y a une ville qui fait à peu près 20 000 habitants avec l'agglomération,
c'est
donc ça pose effectivement problème. L'autre point, c'est l'âge moyen, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est sur un échantillon ou c'est sur la totalité des 3500 patients. Mais en tout cas, la moyenne d'âge de l'opération cataracte est très stable depuis 20 ans en France et elle tourne autour de 72-73 ans. Donc la partie qui fait moins de 60 ans représente d'habitude moins de 5% des patients opérés. Donc c'est un peu problème.
Oui. Alors Thierry Bourg, il y a une question qui se pose, parce que les auditeurs, hier soir, on a fait toute une émission sur les arrêts maladie. On avait même des témoignages passionnants. Je pense à un entrepreneur qui nous a appris qu'une de ses salariées était en arrêt maladie depuis 15 ans, ce qui fait quand même une longue période. Combien ça coûte à la Sécurité sociale une opération de la cataracte? À peu près.
Bah, actuellement, disons, en hôpital public, tout compris, il faut compter à peu près entre 1500 et 2000 euros en ambulatoire.
Excusez-moi, 1500, 2000 euros par œil ou pour l'ensemble des deux yeux?
Non, par œil. On n'opère jamais les deux yeux en même temps.
Je sais, hein. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, parce que quand on opère de la cataracte, on fait toujours les deux yeux, mais avec un laps de temps XY entre les deux.
Alors, pas toujours, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs années entre les deux yeux, ça arrive, hein, mais la plupart du temps, effectivement, on les opère à 2-3 semaines d'intervalle.
D'accord. Et donc, ça fait entre 3000 et 4000 euros par opération, c'est ça?
Oh non, plutôt dans les 2000, donc il faut compter la
fois 3500
patients. Oui, mais là c'est 3500 opérations, donc ça fait 3500 yeux. Normalement, ça correspond à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'hôpital.
Ou alors, ça fait quand même un chiffre d'affaires colossal. Mais j'ai une question à vous poser, parce que hier, on parlait justement de la sécurité sociale et des non-contrôles, ou de l'absence de contrôle, ou parfois de contrôle trop rigoureux. Je me souviens de ce chauffeur routier qui devait attendre, qui avait eu un accident du travail, qui devait attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous avec le médecin du travail. il n'y a pas de contrôle quand on fait une demande d'opération de la cataracte. Parce que, excusez-moi, une opération de la cataracte, si la moyenne d'âge est à 56 ans, il y a bien des gens de 45 ans ou 48 ans qui se font opérer. Parce qu'il y en a de 75 ou 80 qui viennent. Et personne ne se pose de question à la sécurité sociale de dire, une personne de 40 ans qui a la cataracte, je vais parler en tant qu'homme, c'est comme un homme de 40 ans qui a un adénome prostatique, c'est quand même pas la majorité des cas, non ?
Le problème, c'est que les contrôles ne sont pas systématiques, c'est les contrôles a posteriori lorsqu'il y a des remontées négatives qui apparaissent de patients ou d'autres intervenants. Et surtout, l'hôpital, c'est comme les centres de santé, c'est une boîte noire, c'est-à-dire que la sécurité sociale reçoit les flux globaux du service. Oui. Il ne peut pas tracer l'activité par praticien, par exemple.
Oui.
Et c'est vrai qu'ils ne font pas très attention en moyenne d'âge s'il n'y a pas d'alerte qui remonte. Donc c'est plutôt à fond, au niveau de l'hôpital qu'il devrait y avoir des contrôles dans ce genre de problème, parce que c'est pas normal qu'un service d'ophtalmologie ait une activité aussi importante pour une petite ville. Et puis il faudrait qu'il regarde un peu la moyenne d'âge. Donc c'est...
Mais,
ou alors, éventuellement, c'est l'ARS aussi qui peut contrôler.
Hein. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on a mis les ARS en place il y a quelques années, en nous disant que les ARS, elles vont superviser ce qui va bien, ce qui va moins bien dans le système de santé dans chaque région, comme ces agences régionales de santé. Que font les ARS dans ce domaine ? Parce que, désolé, Jean-Louis Borloo avait dit qu'on était un pays de contrôleurs, qu'on était devenu un pays de contrôleurs. Ouais. J'ai l'impression que dans certains domaines, il y a peu ou pas de contrôle du tout.
En pratique, les ARS font très peu de contrôle. Ils ont peu de personnel dédié au contrôle. Et de toute façon, ce n'est pas les payeurs. Donc, les seuls qui sont vraiment motivés pour contrôler actuellement, c'est l'assurance maladie. Et d'ailleurs, le service des fraudes d'assurance maladie a fait d'énormes progrès depuis une dizaine d'années. Ils ont triplé ou quadruplé les détections des fraudes. Mais les ARS sont relativement peu motivés puisqu'ils n'ont pas de retour, je dirais, sur investissement, sur les contrôles. Mais normalement, effectivement, le contrôle administratif relève plutôt de l'ARS.
Mais une question, Thierry Bourg, vous êtes ancien président du Syndicat national des ophtalmologistes de France. Quand, alors un ophtalmologiste, dans votre cas, ou je ne sais pas moi, un pneumologue ou un neurologue, est pris en flagrant délit de fraude, est-ce que les sanctions sont lourdes ? Alors vous me direz, c'est en fonction de la fraude. Mais est-ce que les sanctions sont vraiment à la hauteur et dissuasives ou pas ?
Alors, actuellement, au niveau de l'assurance maladie, lorsqu'ils contrôlent des fraudeurs, et en général, c'est plutôt soit des centres de santé, soit des praticiens libéraux, sur des gros volumes, effectivement, le remboursement d'indu, donc les sommes à rembourser, peuvent être très importantes. On peut des fois rembourser 100 ou 200, 300 000 euros. Donc, c'est des sommes importantes. Après, il peut y avoir des sanctions pénales ou autres, lorsque vraiment, il n'y a pas qu'un problème financier, il y a des mauvaises indications, une fraude délibérée, etc. Donc, effectivement, il y a des sanctions de plus en plus lourdes depuis quelques années.
Merci beaucoup. On va suivre ce dossier de presse. C'est un dossier qui est dans le canard enchaîné. C'est l'hôpital de Châteaudun n'a Dieu que pour les profits. On apprécie toujours les jeux de mots du canard avec un dossier vraiment emblématique. Et les ophtalmologistes voulaient réagir, donc on leur a donné la parole. Tiens, vous avez constaté des fraudes. On vous a fait des choses pas très bien, ou proposé des choses pas très bien quand vous étiez patient, un médecin par exemple, une partie au black, ça existe aussi, ou quoi que ce soit, venez témoigner au 0826 300 300. Mais Mathéo Lamblot, maintenant, il y a un sujet qui vous fait réagir, c'est l'éducation.
Exactement, Philippe, l'éducation. Donc, on va en parler dans un instant. C'était l'objet de votre coup de cœur, cette suppression du participe passé.
C'était plus un coup de gueule qu'un coup de cœur.
Votre coup de cœur, excusez-moi, cette suppression du participe passé envisagé par l'éducation nationale. Mais on va aussi parler de ces classes multiniveaux qui sont devenues la norme, avec un enfant sur deux en primaire qui est maintenant concerné. Donc, vous nous appelez au 0826 300 300.
Et vous êtes parent d'élève, venez témoigner, vous êtes prof, vous êtes, je sais pas moi, éducateur, venez témoigner au 0826 300 300.
Sud Radio, les vraies voix font parler la France, Philippe David.
Retour des vraies voix font parler la France avec Mathéo Lamblot. Mathéo, et maintenant on va parler, c'est mercredi de rentrée, d'éducation.
Eh oui, on va parler même de réforme de l'orthographe, Philippe, parce que l'éducation nationale imagine peut-être de supprimer le participe passé parce qu'il serait...
L'accord du participe passé
parce qu'il serait trop compliqué pour les élèves.
Eh bien, on a justement... Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir Mathéo, bonsoir Philippe.
Alors c'était mon coup de chaud d'ailleurs tout à l'heure, parce que là moi ça me révolte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réforme où on veut tout simplifier, quitte à faire, on va peut-être écrire maintenant des livres en termes SMS pour dire ne t'inquiète pas, on mettra TKT, et pour dire j'ai beaucoup ri, on mettra LOL, non ?
Oui, c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire sur le verbe avoir, à la limite, le verbe avoir, ils peuvent l'enlever parce que moi, je préfère être qu'avoir.
Mais c'est bon.
Juste, ouais, c'est joli.
Très belle subtilité.
Voilà. Et pour l'orthographe, alors, vous savez que l'oubli d'une virgule peut vous faire changer radicalement votre vie.
Ah, bien sûr.
Une phrase qu'on apprend aux enfants entre « on va manger, virgule, les enfants », ça veut dire « on les appelle pour passer à table ».
Oui.
Mais si on enlève la virgule, on va manger les enfants, ça veut dire qu'on va manger les enfants.
Si on passe au cannibalisme.
Voilà, il y a des subtilités. Et ça, alors aujourd'hui, c'est sûr, quand on débat comme ça, il y a toujours une pointe. On voudrait essayer de rire un peu dans l'actualité qui est tellement morose. Mais on va pleurer parce que quand même, savoir lire et écrire, c'est la chose principale pour pas qu'un peuple soit écrasé. C'est-à-dire que la méconnaissance, le manque de culture, mais tout ça, mais c'est gravissime pour notre société. Voilà. Donc moi, je suis catastrophée. Je suis d'une génération, d'autant plus quand on parlait des niveaux. Enfin, je ne sais pas si je peux aborder de ça.
Mais bien sûr, hein, c'est open bar, c'est vous qui parlez.
Voilà. Moi, je suis d'une génération où quand je suis rentrée, donc l'école était obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. On rentrait au CP. Il n'y avait pas de petite, de grande, de moyenne, d'excellente maternelle. On passait directement au CP. Et j'étais dans la même classe que mon frère qui était au CM2.
Oui.
Et nous avions une maîtresse.
CP, CM2. Ah oui, là, il y a quand même 5 ans d'écart, hein.
Eh oui, bon, je vais pas vous dévoiler mon âge, mais bon, physiquement...
Enfin, 4 ans d'écart, CE1, CE2, ouais. CMS, CM2, 4 ans, 5
voilà.
classes.
Donc, voilà, et donc, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, cet enseignement que j'ai eu à cette époque-là m'a quand même donné les bases. Aujourd'hui, on ne les a plus. Et puis alors, la petite anecdote, et après je laisse la parole. Je suis allée déposer plainte dans une gendarmerie il y a très peu de temps.
Oui.
Donc, le problème, c'était que mon voisin, à l'aide d'un burin, a cassé mon mur. Voilà. Oui. Donc, je dis au gendarme, voilà, mon voisin, à l'aide d'un burin, a cassé le mur. Et à la fin de la déposition, ce jeune garçon qui venait, qui était vraiment très jeune gendarme, me dit, excusez-moi, il me dit, l'outil qu'a utilisé votre voisin, c'était un bourrin. Je vous jure que c'est pas une histoire belge et que ça s'est passé dans la gendarmerie de mon village.
Alors...
Et quand même, quand j'ai rencontré le major que je connais un peu, il a fallu que je lui raconte, mais lui aussi, il est désespéré de voir le niveau des jeunes gendarmes qui rentrent. Alors, j'espère qu'ils connaissent mieux la loi que l'orthographe.
Alors, Sophie, permettez-moi de vous dire une chose. Vous avez eu le bon réflexe de ne pas répondre aux gendarmes que le bourrin, c'était lui, parce que là, vous auriez eu des ennuis avec la justice plutôt que votre voisin, non ?
Absolument. En plus, vous savez, je ne méprise jamais les gens.
Oui, ah non, mais c'est sûr. Non, mais moi, je me souviens que j'avais lu une fois qu'une personne avait découvert le poteau rose. Poteau, ouais. Comme un poteau électrique, oui. Rose après, au lieu du pot P-O-T-A-U-X, plus loin, rose les fleurs. Ça, j'avais vu ça, ça m'avait beaucoup fait rire. Et alors, je connaissais très bien une prof d'histoire qui avait eu dans une de ses copies le pape Innocent XIII qui était écrit P-A-P-I-N-O, plus loin, 113 en chiffres arabes. Donc celle-là, Papino 113, celle-là, ça faisait penser à OSS 117, c'était génial. Restez avec nous, Sophie, parce qu'on a Julien qui veut réagir également de Savoie. Bonsoir Julien.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu Sophie, votre réaction?
Moi je suis d'accord avec Sophie, je suis catastrophé par ce que j'entends au niveau notamment de la réforme d'orthographe, parce qu'à force de tout simplifier, On va avoir des élèves qui n'auront plus de notes, c'est déjà le cas, mais avoir des gommettes vertes pour montrer qu'ils vont bien, pour que ça tourne bien. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, après, quand ils vont arriver en faculté, ou alors dans des écoles supérieures où il y aura vraiment des notations, et ben là, ils risquent d'être un peu déçus par ce qui se passe, parce que pour les préparer sur le marché du travail, je suis pas sûr qu'un employeur ou une collectivité embauche une personne qui ne sache pas ni parler français parce qu'il parle de manière incorrecte, ou alors avec un orthographe catastrophique en style SMS. J'ai une petite anecdote, moi, quand j'étais au collège, j'avais un professeur d'éducation physique, et qui était plus qu'un professeur, qui était un éducateur, enfin, il était vraiment excellent. Et je pense souvent à lui, et souvent il nous donnait des punitions quand on faisait un peu les imbéciles. Et un jour, il dit à un collègue qui n'avait rien fait pendant le cours de lui copier 200 fois « loisiveté et mère de Touvis ». Et ben lui, il avait mis « loisiveté et mère des Touvis ». Et donc, et je vous dis ça il y a un petit moment, et en fait, plus ça va, plus c'est une catastrophe. J'entends souvent dans le débat des présidentielles que pour régler le problème de l'éducation nationale, c'est un problème de moyens.
Non.
C'est pas du tout un problème de moyens, c'est un problème de méthode. Il faut revenir à ce qui marchait avant. Moi, j'étais toujours en double classe.
Oui.
C'est grande section de CP.
Comme Sophie, qui est multiclasse.
Voilà.
Hein. Oui.
Voilà. Et ben, je peux vous dire qu'au CP, quand on arrivait au CP, à Noël, toutes les personnes qui étaient en CP savaient lire et écrire.
C'est
pourquoi
vrai.
Ben, parce qu'en étant en grande section, et ben, on suivait le cours de la classe supérieure. Et ça nous a beaucoup aidé. Et je connais personne qui je suis encore en contact, qui regrette ça. Et c'était un peu à l'ancienne, beu à bas, beu ubu.
C'est ça.
Et ben, on rabâchait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et ben, dans mon entourage, alors on n'a peut-être pas tous fait des grandes études. On n'a pas tous fini ingénieur. Mais par contre, ils ont tous un travail. Ils savent tous écrire, parler français, compter, parce que ça a été fait dans un style qui est académique, à l'ancienne. Ça marche très bien. Il faut arrêter d'avoir des pédagogues à l'éducation nationale qui expliquent que les nouveautés, ça fonctionne, parce qu'on se retrouve avec une éducation nationale qui est en totale faillite, et aussi au problème de formation. Pour côtoyer aussi, de par mon activité professionnelle, souvent des personnes qui écrivent et qui envoient des CV, parfois même des personnes qui sont à l'université envoient des CV et des lettres de recommandation, je suis désolé, enfin de motivation,
oui.
C'est directement poubelle, tellement c'est écrit dans un style Aya Nakamura, enfin c'est juste pas possible. Voilà.
Ah oui, là, si elle vous dit c'est Dja, ça c'est un peu pas terrible sur une lettre.
Non, mais voilà, c'est un tout, je pense qu'il faut revienne aux fondamentaux, à des bases, et stop quoi. Et l'éducation aussi. Je vois aussi, excusez-moi, parce que moi je suis passé par l'UFM.
Oui.
À l'époque, alors ça date un petit peu.
Institut universitaire de formation des maîtres. Voilà.
Et ben, la personne qui nous formait pour être prof n'avait jamais été prof.
Ah oui.
Et j'ai plus appris en quelques mois de stage. Maintenant, je suis plus du tout dans le cursus. Je suis plus du tout prof. Hein, et j'ai plus appris devant une classe pendant 6 mois quand j'ai fait mon stage qu'en un an à l'UFM. Il faut tout revoir. Je pense qu'il faut vraiment reprendre tout à la base. Mais comme tout dans ce pays, de toute façon, vu que rien ne va. À part le système fiscal, il faut tout reprendre depuis le début et revenir aux fondamentaux, hein, c'est pas compliqué.
Excusez-moi, permettez-moi, Julien, de faire un trait d'humour. Quand on voit comment les impôts ont été piratés cet été, je crois que le système fiscal ne marche pas si bien que ça non plus.
c'est dire si nous sommes en crise.
Nous allons, comme dirait l'autre, de Caribe dans Scylla. Restez avec nous, Julien et Sophie, parce que beaucoup d'appels au 0826 300 300, Mathéo, et je vais vous faire témoigner dans quelques instants.
Eh oui, Philippe, parce qu'on va parler des classes multiniveaux qui sont désormais devenues la norme en France, puisque un élève sur deux en primaire est concerné. Donc si vous êtes parent, professeur, bah, venez témoigner au 0826 300 300.
Vous avez aimé ça? Pas du tout, on attend vos appels.
Sud Radio, les vraies voix font parler la France. Philippe David.
Retour des vraies voix font parler la France. Vous voulez réagir sur les classes de niveau, réforme de l'orthographe en ce premier mercredi suivant la rentrée des classes avec nous. Bien évidemment, Mathéo Lamblot, Sophie et Julien sont toujours avec nous. En plus, ils ne manquent pas d'humour, ils ont plein de bonne humeur, c'est parfait. Beaucoup d'appels au 0826 300 300. Et là, si vous appelez, vous aurez la chance d'avoir la voix d'Aude qui transpire la bonne humeur et le sourire. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Et je vais vous faire témoigner, Mathéo, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez fait votre primaire, c'est ça, dans une classe 2, avec plusieurs niveaux. Racontez-nous.
Exactement, Philippe.
Vous étiez en zone rurale, donc dans les Ardennes.
Exactement, une zone rurale dans les Ardennes, un petit village de 200 habitants, hein, où tous les enfants des alentours étaient réunis. Donc oui, donc grande section CP, c'était ma première classe multiniveau. Après, j'ai fait CE1, CE2 en multiniveau, et CM1, CM2 également. Donc toute ma scolarité, finalement, en primaire, j'ai faite en classe multiniveau.
Mais alors, je vous pose une question. Comment ça se passe entre grande section de maternelle et CP? Parce que, on va dire que la maternelle, c'est plus de la garderie que de l'enseignement, théoriquement. Même si pour moi, la dernière année de maternelle, c'est très très vieux. Pompidou était président, c'est dire si ça date, voyez un peu. Comment ça se passait avec ceux qui apprenaient à lire, à écrire, à compter, pour qui c'est plus fastidieux quand même?
On avait une enseignante pour les deux. Donc il y avait une partie de la classe qui était grande section, et de l'autre côté de la classe, totalement dos oui. à la classe de grande section, il y avait la classe de CP, dans la même classe, quoi. Il y avait la partie grande section, la partie CP, oui. Et l'enseignante faisait les aller-retour, en fait.
Et c'était pas trop compliqué pour la discipline?
Si, voilà, vous touchez du doigt le principal problème, en fait, parce que les élèves de grande section étaient automatiquement dissipés dès que l'enseignante partait vers les CP.
Et parce qu'ils sont moins mûrs. C'était pas vous le principal perturbateur?
Ça pouvait arriver.
C'est beau de reconnaître ses torts. On part direction les Landes. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Vous voulez réagir justement sur les classes de niveau, l'enseignement, etc. On vous écoute.
Oui, alors mon témoignage, il va être moins drôle.
Oui.
Alors moi, je suis AESH.
Oui, alors expliquez ce qu'est une AESH.
On accompagne les enfants en situation de handicap.
Absolument.
Pour l'école inclusive.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc on peut se retrouver chez les tout-petits, chez les moins petits, chez les ados, les pré-ados, les adultes aussi en BTS. Et là, je vais parler donc de l'école...
inclusive
pour les... Oui. Alors les tout-petits, moi je pense que ça reste un petit peu positif, les tout-petits à la maternelle, parce qu'ils se poussent vers l'avant en fait, quand ils sont en plein apprentissage. Moi, je trouve que c'est quand même assez positif pour les tout-petits.
Oui.
Mais après, c'est vrai que quand on arrive en CP, CE1, CE2, là, je trouve que c'est compliqué.
Oui.
Compliqué. Alors moi, je parle surtout des enfants en situation de handicap.
Oui.
Qui demandent quand même un peu plus de...
d'attention et de suivi.
Complètement. J'ai vu des enseignants en souffrance, des fois. Ça m'est arrivé d'en voir en souffrance, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants-là. Et il y en a qui ne sont pas notifiés non plus. Notifiés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'AESH.
Oui.
Et là, c'est encore plus compliqué.
C'est l'enseignant qui doit gérer sans AESH.
Tout à fait.
Ah oui, ça doit être très problématique.
Oui. Et des fois, il y a certains enfants qui n'ont pas encore les notifications. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore d'AESH. Et là, mais je vous promets qu'il faut vraiment être dans la classe pour voir.
Ah oui.
Et... C'est une souffrance pour les enfants, pour l'enseignant, mais aussi pour les autres élèves lambda.
Bien sûr, parce qu'ils perturbent malgré eux, bien évidemment, une partie de l'enseignement, ce qui prend du temps, a fortiori quand il n'y a pas d'AESH, pour l'enseignant, tout l'enseignant, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Et des fois, même nous, on est présents, mais nous, on doit s'occuper de notre élève.
Oui.
Mais ça, c'est vraiment sur le papier. Parce que dans la vraie vie, la réalité, on s'occupe aussi des enfants qui ne sont pas notifiés. Hein. Ça nous arrive. Hein. On est obligé, parce qu'on ne peut pas laisser un enfant qui n'a pas encore de notification déborder. Parce qu'on est aussi là pour aider aussi l'enseignant. Mon témoignage est moins drôle. Hein.
Ah non, mais c'est passionnant. Ça fait combien d'années que vous êtes AESH, Stéphanie?
J'entends ma 17e année.
Ah oui. Est-ce que vous avez...
Pour être honnête, je ne vais pas aller jusqu'à 20 ans. Je pense que là, je suis un petit peu désolée de tout ce qui se passe et je crois que j'ai fait le tour.
Et vous avez vu, en presque 17 ans, 17e année, enfin, 17e entrée scolaire, vous avez du vécu, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Vous avez vu la situation, parce qu'on avait dit dans les années Chirac que le handicap était une des grandes causes nationales, qu'on allait mettre le paquet et toutes les promesses qu'on nous fait toujours. Est-ce que vous avez vu la situation s'améliorer, ou alors ça a été que des phrases, ou alors ça s'est amélioré pendant quelques années et après ça s'est cassé la figure? Comment ça s'est passé depuis 17 ans?
Déjà depuis 17 ans. Alors moi, quand j'ai commencé, on n'était que deux AESH.
Oui.
Et aujourd'hui, bon, après, c'est vrai que c'est des piales, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais
c'est quoi des
piales, des pôles, en fait, on est sur une zone. Oui. Et on a plusieurs AESH dans cette zone. On est dispatché sur tous les établissements de la zone, en fait.
D'accord, ok.
Et non, tout s'est dégradé. Là, maintenant, on est une vingtaine, on est 27 ou je ne sais plus combien. Non, tout s'est dégradé. Vraiment. Moi, nous, on était pour deux AESH au départ.
Oui.
On était sur minimum 12 heures par enfant. Maintenant, ça peut arriver qu'on nous mette 2 heures par enfant, par semaine.
Ah oui.
2 heures, ça peut arriver. Là, il y a 2 ans, j'ai eu 8 élèves.
Pour vous seul ?
Oui.
Et comment vous faites ? Oui. Surtout que.
Et qu'on doit imaginer. De l'élémentaire au BTS.
Ah oui, parce que l'un, c'est avant 10 ans et l'autre, c'est du post-bac. Donc, il y a quand même une oui. pyramide des âges qui est très vaste.
Ah oui, oui.
Et comment vous faisiez ? Parce qu'un élève de BTS qui a peut-être 20 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 7 ans en CE1, quoi.
Ah oui, complètement. Eh bien, alors, justement, il était en CE1, le petit.
Ah bah oui, j'ai pas fait exprès.
Voilà. Ensuite, j'en avais un autre en CE1 ou CE2. J'en avais deux autres.
Oui.
Et ensuite, c'était lycée en première et après BTS.
D'accord.
Voilà. Eh bien, comment on fait ? Eh bien, on finit l'année sur les rotules.
Oui.
On est fatigué. On est content d'être arrivé au mois de juillet. Et puis, on fait de notre mieux, mais après, on se sent complètement.
Abandonné ?
Abandonné, complètement. On ne fait pas le travail qu'on devrait faire auprès d'eux.
C'est fou, ça, oui.
C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.
Ça, c'est fou. C'est fou, c'est oui. fou. Restez avec nous, Stéphanie, parce oui. qu'il y a Marie-Claire qui attend depuis un certain moment, qui a appelé le 0826-300-300. Bonsoir, Marie-Claire.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Très bien, Sophie et Stéphanie sont toujours là. On vous écoute, vous êtes ancienne enseignante, c'est ça ?
Alors moi, j'étais contractuelle, c'est-à-dire que je n'avais pas passé mes concours de l'éducation nationale.
Oui.
J'ai été lancée dans une classe, j'ai eu un CP, mais ils ont tous su lire et écrire, mais j'avais qu'un niveau, hein. Oui. J'avais pas des classes à double niveau. À l'époque, c'était dans les années 90, et j'ai été dans une classe avec un seul niveau. Mais par contre, j'avais dans ma classe une petite handicapée.
Oui.
Et à l'époque, il n'y avait pas d'AESH. Ça oui. n'existait pas. Donc, il fallait que je gère la classe. Ils étaient 27.
Oui.
Et il fallait que je gère en plus la petite handicapée. Mais si vous voulez, il n'y a eu aucun problème pour cette année-là. C'est ma dernière année, parce qu'après, j'ai démissionné de l'éducation nationale.
D'accord.
Et j'ai passé un concours administratif aux impôts, justement, ailleurs.
D'accord.
Parce que j'étais mal payée. Voilà.
D'accord.
J'étais... Ah ben ça, les salaires sont minables pour le temps. Parce que là, les gens voient les vacances. Mais il faut savoir que dans l'éducation nationale... On est payé sur les vacances d'été ne sont pas payées.
Oui. Elles sont c'est lycée de 10 mois sur 12, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Mais les gens pensent qu'on est payé pendant les grandes vacances. Et moi, en tant que contractuelle, je n'étais absolument pas payée l'été. C'est-à-dire que j'arrêtais fin juin, juillet, août, je n'avais pas de salaire.
Oui, ce qui voilà. devait être compliqué mais pour les fins de mois, soit dit en passant. Hein, pour payer ouais, le loyer, la nourriture, et puis en juillet, août, un peu de vacances, ça ne fait de mal à personne.
Je suis partie. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas les AESH. Mais là, je viens d'écouter la personne avant moi.
Absolument, Stéphanie.
Oui. Et je trouve qu'ils font un travail considérable, mais ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas valorisés. Mais pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est la base de tout.
C'est sûr. C'est sûr.
Et bien, pourquoi ? Vous demandez. Moi, j'aimerais bien savoir, en interrogeant les politiques, pourquoi ? Mais il n'y a pas que ça qui ne va pas. Hein. Il y a les salaires. Alors, manque de moyens, oui, mais ce n'est pas ça le fond. Les AESH, je vois la personne qui a parlé, elle a dit qu'elle s'occupait du CP, même de la
maternelle. De CE1 au BTS.
Mais c'est pas normal.
Oui, non, mais c'est clair.
Pourquoi on n'embauche pas plus ? Parce qu'on ne veut pas payer les gens du tout. On préfère donner de l'argent, je ne sais quoi. L'argent est mal distribué et mal. Et moi, les groupes de niveau, je n'ai pas connu. Parce que quand j'étais enfant dans les années 60, ça n'existait pas, les groupes de niveau. Moi, j'étais oui. en ville, hein, j'étais pas
oui,
à la campagne.
Mais ça existait à la campagne. Hein. Dans les zones rurales, je peux vous dire que ça existait.
À la campagne, oui, ça existait peut-être. Mais moi, j'étais à Créteil.
Ah oui, là, oui, Créteil, c'est pas franchement la zone rurale, ça, c'est clair.
Voilà. Mais par contre, mon frère, qui était plus jeune que moi, après mes parents ont déménagé, ils se sont installés à la campagne. Lui, il a connu les groupes de niveau en dernière année, c'est-à-dire qu'il y avait le CM2, CM1, CM2 ensemble.
Absolument.
Et apparemment, ça ne lui a pas posé problème. Ce n'est pas tellement une question. C'est, de toute façon, l'enseignant, il fait ce qu'il peut.
Oui.
Et si l'enseignant est bon, qu'il y ait deux niveaux ou un niveau, ça sera, tous les enfants auront le niveau à la fin de l'année. Hein. Ce n'est même pas une question de... Voilà. Parce que des groupes de niveau... Moi, je n'ai pas connu personnellement. Je ne l'ai pas eu non plus en classe. J'avais qu'un niveau, mais j'étais contente d'avoir un niveau. Mais par contre, j'avais une petite handicapée et il fallait beaucoup plus d'attention avec ces élèves.
C'est sûr.
Mais moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'éducation nationale. Il y a les salaires, il y a l'organisation interne. Et puis, l'éducation nationale, c'est une grosse machine, beaucoup trop grosse, en fait.
Ah non, mais alors ça, c'est le plus gros ministère de France, hein, ça est de très très loin. Mais il y a une question qui se pose, cependant, on doit faire une courte pause. Stéphanie, Marie-Claire, Sophie, restez avec nous, je vais vous faire discuter entre vous, parce que j'ai des questions à vous poser. N'est-ce pas Mathéo ?
Eh oui Philippe, et on continue de vous les poser hein, cette question sur ces classes multiniveaux envisagées, enfin qui sont désormais pardon, devenues la norme au sein de l'éducation nationale puisqu'on rappelle ce, chiffre,
endroits, oui.
On rappelle ce chiffre, un enfant sur deux est désormais concerné en primaire par ces classes multiniveaux.
Eh bien vous voulez réagir, encore et toujours le 0826 300 300.
Sud Radio, les vraies voix font parler la France, Philippe David.
Retour des vraies voix font parler la France avec Mathéo Lamblot également, évidemment, Maxime à la réalisation.
Oui, bonsoir.
Aude au standard avec sa voix et son sourire légendaire.
Vous pouvez l'entendre que si vous appelez 0826 303 hein.
Bien sûr, Aurélien, Web, tout le monde est avec nous.
C'est Antonin.
Antonin, pardon, qu'est-ce que j'ai dit Aurélien ? Là je suis fatigué, à 2h45, Antonin évidemment, tout, autant pour moi. J'ai pensé à un Aurélien il y a quelques instants, c'est pour ça que je salue d'ailleurs, comme je sais qu'il écoute régulièrement les vraies voix. Mathéo, on va reprendre nos trois auditrices, Sophie, Marie-Claire et Stéphanie. Je vais redonner la parole à Sophie qui n'a pas parlé depuis longtemps. Sophie, oui. Quand vous entendez ce que racontent Marie-Claire et Stéphanie, l'une a quitté l'éducation nationale et l'autre envisage de la quitter. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Déjà, ça m'inspire. Dommage que Julien soit parti, parce que moi, j'aurais mis Julien ministre de l'Éducation et Marie-Claire et l'autre dame au ministère aussi. Dans une, voilà.
On va rappeler Julien pour lui annoncer sa nomination rue de Grenelle, voilà. Il va être heureux.
Ouais. Non, je juste quand même, bon, c'est vrai que comme disaient les auditrices, il n'y a vraiment rien de drôle dans ça.
C'est clair.
Ce qui est d'ailleurs presque à se poser la question, si l'appauvrissement intellectuel n'est pas quand même le but d'un gouvernement. Voilà. Et je me souviens que dans les années 90, c'est Claude Allègre, donc, qui était ministre de l'Éducation, oui. Disait qu'on était à 230 jours d'école et je crois qu'aujourd'hui, on en est à 170 ou 180.
Oui.
Enfin, on a bien diminué le quota d'heures
de cours. Oui.
Il n'y a pas de secret. Voilà, il y a des méthodes qui marchaient. Il faut les remettre. Mais peut-être que le but de notre gouvernement et des gouvernements passés et ceux à venir ne sont pas faits pour que les gens soient éclairés.
Moi, j'ai voilà. toujours pensé. Une chose depuis des années, c'est que je pense qu'on ne veut plus qu'il y ait de citoyens. On veut qu'il n'y ait que des consommateurs. Mais ça, c'est mon point de vue.
Non, mais puis en plus, le pire, c'est que c'est tous ces gens-là qui font de la politique. Bon, déjà, ils sont perchés la plupart du temps. Eux-mêmes ne savent pas faire un discours, puisqu'en plus, maintenant, ils ont recours à l'intelligence artificielle, probablement. On a des débats actuellement où ils ont des prompteurs devant, ils lisent, ils savent même pas ce qu'ils racontent.
Ça a toujours été le cas. Hein. Ou alors, on leur écrivait les discours très souvent. Ça, c'est vrai.
Ouais.
Mais ça fait longtemps que ça dure.
Et en plus, je vais vous dire, ils envoient des informations qui sont... Alors là, on parle de l'orthographe, mais si on parlait des calculs, ben là, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui peut se présenter. Hein.
Ça,
on a un Guzman qui nous explique que 15 milliards injectés dans les caisses des travailleurs, ben écoutez, ils pensent nous envoyer de la richesse, ils nous envoient 40 euros de plus sur nos fiches de paie. Alors, c'est vrai que pour ça... Bon, enfin, on n'est pas au calcul, on en est à l'orthographe. Donc, quand même, je crois, oui, il y a un vrai problème, il y a un appauvrissement intellectuel qui est en train de se créer, et ça va avoir des conséquences dramatiques
pour la France.
Sur la façon que pensent les gens. On n'a plus de discernement et c'est dangereux.
Je suis bien d'accord. Et deuxièmement, vu la mondialisation, on a intérêt à avoir des ingénieurs, etc., top niveau, parce que sinon, les derniers emplois qui restent en France vont partir. Stéphanie, Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure en deux minutes? Et après, on fera conclure Marie-Claire, parce qu'on a Richard qui veut réagir sur la TVA sociale. Stéphanie.
Moi, ce que je souhaiterais dans un monde meilleur,
oui,
c'est que, d'accord, on donne accès à l'école inclusive, mais vraiment, mettez les moyens, parce que tout le monde souffre, et oui, les enfants en priorité.
Oui.
Mais c'est de l'aide humaine qu'on donne, mais en fait, moi, je trouve ça très dommage, parce que c'est vrai que certains élèves m'épatent, ils sont capables de beaucoup de choses avec de l'aide. Mais
c'est
vraiment,
clair, mais c'est clair.
Ils sont très, très intelligents, ces enfants-là.
C'est
mais
clair.
On ne leur donne pas les moyens. Et passé un âge, on dit ben, stop. Parce que là, cette année, ça a été. On privilégie l'école. Alors, OK, je comprends. Mais tout ce qui est lycée, collège et BTS et tout ça, ben, on ne leur en donne plus. C'est fini.
Vaste sujet.
Donc, ça, c'est dommage.
Et voilà. Stéphanie, bravo pour ce que vous faites. Hein. Vous allez quitter probablement la profession d'AESH. Oui. Mais bravo, parce qu'on ne rappellera jamais assez l'utilité que vous avez auprès du corps enseignant et dans la société. Marie-Claire de Bergerac, qui elle a quitté l'éducation nationale pour aller du côté des impôts. Mais vous êtes extrêmement sympathique. Hein. quelle est votre conclusion en deux minutes à peine?
Alors, moi, j'ai jamais regretté d'avoir quitté l'éducation nationale, même si j'ai fait ensuite un travail qui n'avait absolument rien à voir.
Oui.
Mais ce que je dirais, c'est que aux politiques, c'est qu'ils prennent, en faisant toutes ces mesures complètement irréfléchies, et sûrement un coup de com', mais il faut qu'ils pensent aussi aux enfants et à leur bien-être. Et leur bien-être, ça passe aussi par un personnel qualifié et payé.
Ça,
parce que les AESH, je connais leur statut, qui est très peu payé.
Ah, c'est, oui, Mathéo, regardez, pour la pub, le montant, vous pouvez dire les grilles des salaires.
L'échelon 1 est à un peu plus de 1 800 euros. Et
brut,
hein, et l'échelon 8 à un peu plus de 2 000 euros, mais vraiment, c'est très peu. Hein.
C'est vraiment pas mirobolant. Merci beaucoup, Marie-Claire, Sophie, Stéphanie, Julien. Vous avez appelé au 0826 300 300 pour réagir à un débat qu'on a eu dans Les Vraies Voix sur la TVA sociale. Bonsoir, Richard.
Oui, bonsoir.
Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes pour ou contre la TVA sociale?
Moi, je suis contre. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des mesures qui sont appliquées, qui sont un peu insidieuses. Ce matin, M. Papin était chez vous.
Absolument. C'est pour ça qu'on
venu,
a fait ce débat.
Ouais, et il nous a, en fait, M. Papin, il nous a pris pour des lapins de 3 semaines. Ça va être l'ouverture de la chasse, hein, ça sonne bien. Mais quand il a annoncé des jeans à 35 euros chez Kiabi, ça a mis la puce à l'oreille du lapin.
Oui.
Et là, le lapin, il s'est dit, il va vérifier. Mais en fait, les jeans de chez Kiabi à 35 euros, ils sont fabriqués par une usine qui appartient au patron de Auchan, qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires et 1,2 million de pertes. Donc en fait, mais ça représente pour 1000 des jeans vendus en France.
Oui,
donc,
c'est l'usine française, c'est ça?
Voilà. Donc, en fait, c'est de la com. Et cette usine, ce genre de com, ça permet de faire passer la pilule de 10 euros de plus sur les choses qu'on va acheter, qu'on appelle ultra fast fashion,
oui,
mais qui sont fabriquées au même endroit que 99% des choses que vous allez acheter en fast fashion, mais dans les magasins.
Alors, je connais pas cette usine et surtout son bilan. Donc, alors parfois, je vais vous dire une chose. Parfois, dans les très gros groupes, j'ai travaillé dans des gros groupes il y a longtemps, on fait exprès de faire des pertes sur certaines unités pour en gagner plus ailleurs. Alors ça, faut le savoir aussi. Hein, je ne peux pas citer le cas à l'antenne. Mais ça, j'en ai vu. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est normal que seul le produit made in France paye la retraite et la maladie et les accidents du travail et tutti quanti, alors que le produit chinois, américain ou allemand ne le paye pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'injuste et de la concurrence un peu déloyale contre nos propres producteurs?
Si vous mettez de la TVA partout, qui c'est qui va la payer?
Le consommateur.
C'est les consommateurs le plus pauvre. Hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple,
le plus riche la paye aussi. Hein.
Mais elle pèse énormément moins par rapport à ses revenus. Si vous mettez de la TVA, lui, il va passer ses vacances à l'étranger, il en paiera à zéro. Donc tout l'argent, et quand vous partez en vacances, vous dépensez plus. En fait, cette TVA, c'est pas la solution. Il faut trouver l'argent et réduire nos dépenses. Il n'y a pas de mystère. C'est pas en venant repomper tout le monde, en fabriquant quelque part de l'inflation pour tous les gens, qu'on va arriver à résoudre notre problème de gaspillage généralisé
alors,
sur la sécu.
Ça, c'est une vraie question, mais je vais vous prendre un exemple. L'Allemagne, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs dans le débat sur la TVA sociale, elle a fait la TVA sociale il y a pile 20 ans, elle l'a votée en 2026, elle est rentrée en vigueur le 1er janvier de 2006, pardon, elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ils l'ont augmenté de 3 points, la passant de 16 à 19, et l'Allemagne s'est beaucoup moins désindustrialisée que la France. Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas à vous dire, tiens, finalement, peut-être que ça n'a pas que des vices et peut-être quelques vertus?
Je pense que faire ce raccourci-là, pour moi, le lien ne se situe pas là. Le lien, pour nous, c'est le fait que c'est pas le fait que ça sorte d'une poche ou de l'autre, c'est que les prélèvements obligatoires en France, ils sont à 50%. C'est que la masse de fonctionnaires qu'on a en France, elle est énorme versus l'Allemagne. C'est qu'on paie une armée que les Allemands sont en train de payer maintenant, qui va leur fabriquer là aussi des grosses dépenses, mais jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas.
Non, mais ils ont beaucoup moins de dettes que nous, donc ça aide.
Ben oui, on a lâché beaucoup de choses, et puis on leur a fait cadeau, on leur a fait un cadeau énorme, c'est de désindustrialiser la France en ne vendant pas l'électricité au prix qu'elle vaut avec le nucléaire. Oui, on aurait eu un appel d'oxygène avec une augmentation de l'activité industrielle, si on avait maintenant tenu des tarifs industriels réalistes par rapport au nucléaire.
Et surtout, on a eu à une époque, pour faire l'euro, la politique du franc fort qui nous a coûté très cher au niveau industriel. Mmh. Et après, l'euro, c'est plus le marque qui a changé de nom qu'autre chose. Et en contrepartie, on a eu le prix. Une dernière question, Richard. Qu'est-ce que vous verriez, vous, pour continuer à payer la protection sociale, comme vous êtes contre la TVA sociale? Uniquement les cotisations ou d'autres moyens? Il y a la CSG, etc. C'est vrai. Qu'est-ce que vous verriez comme nouvelle source de financement?
On cherche toujours des sources de financement. Moi, je pense qu'il faut chercher vraiment des sources d'économie. Aujourd'hui, je pense, j'ai quelqu'un qui travaille dans le médical, hein, que je connais très bien, hein, c'est très proche. Et en fait, cette personne, elle a travaillé dans un hôpital où le médecin, lorsque les gens arrivaient, il traitait beaucoup de personnes âgées. Lorsque les gens arrivaient, il nettoyait toute la masse de médicaments qu'ils prenaient. Et au bout de 2 semaines, les personnes allaient beaucoup mieux. En fait, on est surmédicalisé. Parce que c'est remboursé à 100%, tout simplement, comme c'est des longues.
On parlait des arrêts maladie hier aussi, où il y a quand même pas mal d'abus,
a priori. Il y a un abus énorme.
Fortune.
Je pense qu'il faut qu'on se remette en cause. On ne peut plus se permettre de dépenser des sommes faramineuses pour des résultats qui sont très mauvais. On utilise mal l'argent.
Richard, merci à vous de votre témoignage sur la TVA sociale. On a eu votre avis. Hein. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 pour demain soir. Mais merci beaucoup Mathéo Lamblot.
Merci Philippe.
Mais Clément Barga nous a rejoint pour la matinale de Sud Radio.
Et oui,
à partir de 7h avec Jacques Cardoz. Quel est le menu?
Tout à fait. Quelques rendez-vous importants. À 7h10, Jacques Cardoz recevra Bertrand Vanteau, le président national de la coordination, qui va comparaître devant le tribunal correctionnel d'Auch. C'est lui qui avait déclaré: les écolos, la décroissance veulent nous crever, nous devons leur faire la peau. Il est donc jugé pour ses propos. Une audience très attendue sur fond de fortes tensions entre syndicats agricoles et militants écologistes. À 7h40, on va vous parler du moral des artisans, moral qui s'effondre. Sud Radio vous dévoilera des chiffres en exclusivité du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Et puis l'invité politique à 8h30, ce sera Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, soutien de Gabriel Attal.
Merci à vous Clément Barguin, merci à toute l'équipe des Vraies Voix. Il est 19h56, dans quelques instants, vous retrouvez notre ami Anthony Martin-Smith pour On vous a compris. À demain 17h avec les Vraies Voix sur Sud Radio.